Lara Taleb, bonjour. Vous êtes actuellement à Beyrouth. On vient d'apprendre que Saad Hariri, Premier ministre, a finalement renoncé à former un gouvernement. Cette décision remet-elle en question les espoirs de sortie de crise de votre pays? Et surtout, comment réagissez-vous ainsi que vos proches et les Libanais à ce nouveau coup dur?
Oui, bonjour Monsieur Patrick. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur votre plateforme Women in Life. Et même quand même, j'ai eu l'occasion de remercier vraiment la France pour nous donner la chance de continuer précisément mes études. Mais ce qui se passe hier, c'est la pire crise du Liban. C'est l'échec de la formation d'un gouvernement qui s'est fait suite à 9 mois de négociations sur la formation d'un nouveau cabinet de plein exercice. Après 9 mois et après avoir été nommé Monsieur le ministre Saad Hariri, il a renoncé hier à former un gouvernement au moment. Le pays est confronté à la pire crise socio-économique. Vraiment, nous, le peuple libanais, regrettons que notre dirigeant libanais n'ait pas pu parvenir à un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement. Et nous tournons de mon fond de notre cœur notre appel aux dirigeants politiques du pays de la formation d'un nouveau gouvernement capable de relever les nouveaux défis et de soulever le problème de la crise financière et économique que nous présentons maintenant. Nous, notre président Michel Aoun a vu un gouvernement de déconnade pour mener à bien les réformes et les crises. Il a ici aussi souhaité que le Liban ne soit plus État confessionnel et le portage de pouvoir se fait en fonction des communautés religieuses. Et enfin, vraiment, nous, les Libanais, le peuple libanais, nous comptons vraiment sur les efforts de la France pour sortir de cette crise le plus grave depuis la guerre civile. Alors, par rapport à votre question, je vais présenter un petit peu la situation au Liban. Ça fait depuis le dernier trimestre en 2019. C'est une crise économique financière, on peut dire, peuvent être classée parmi la plus grave au niveau mondial. Cette crise a commencé suite à soulèvement de la société civile pour manifester contre la corruption et la mauvaise gestion de la classe politique, qui s'est traduite par une forte baisse de taux d'échange de la livre contre le dollar et le début de retraite des parents et des pauvres du secteur bancaire en devise. L'éclatement de la crise de coronavirus et l'explosion du port de Beyrouth ont accéléré la dégradation de la situation socio-économique. D'une ampleur sans précédent, cette catastrophe causait la mort de près de 200 personnes et des milliers de blessés et laissé 300 000 Libanais sans abri. Aujourd'hui, on a le taux d'échange de dollars et récemment dépassé les 20 000 livres Libanais. Et par conséquent, une majeure partie des Libanais se trouvant désormais sans emploi et vivant en-dessus du seuil de pauvreté nationale. Et bon nombre de ménages ont du mal à accéder aux services essentiels, notamment aux soins de santé. À l'une de son histoire marquée pour une longue guerre civile et de multiples conflits, la Banque mondiale classe le Liban parmi les pays en proie et à la fragilité, au conflit, à la violence, mettant en garde contre les incitations potentielles croissant aux troubles sociaux. La communauté internationale a mandaté la France d'exhorter les dirigeants libanais à former un gouvernement qui serait susceptible de mener les réformes auxquelles l'aide étrangère est subordonnée. Mais ce qui se passe hier, c'est la pire crise du Liban.
Alors, Lara Taleb, venons-en à votre métier de juriste. Pourquoi avoir choisi la fiscalité internationale?
Moi, personnellement, de nature, on peut dire motivée, persistante, passionnée, comme tous les autres Libanais. Et comme un pays francophone, moi je suis vraiment passionnée par le droit fiscal et qui ont comme projet professionnel de devenir spécialiste en droit fiscal international. Et aujourd'hui, la fiscalité contemporaine dépasse largement le cadre national pour intégrer les paramètres de la mondialisation qui cherche vraiment pour la justice fiscale internationale. C'est un grand projet au niveau national et international où la France est un pays moteur pour la reformulation à l'échelle de l'Europe ainsi qu'internationale. Parmi les conventions fiscales internationales et de droit de l'Union européenne et la Convention européenne de droits de l'homme. C'est pour cela que j'ai choisi la France.
De fiscalité mondiale, il est beaucoup question ces derniers temps. L'accord signé le 9 juillet à Venise par le G20 prône une harmonisation des taxations des entreprises multinationales à hauteur de 15%. Que peut apporter une justice fiscale sur le plan international?
on a déjà entendu depuis longtemps des discours médiatiques et politiques pour avoir vraiment cette reformulation au niveau international dans la matière de taxation des entreprises multinationales. Pour faire face à des entreprises qui pratiquent souvent l'optimisation fiscale, qui vraiment établissent leur siège ou le taux d'imposition le plus faible, l'harmonisation des taxations des entreprises est une nouvelle avancée par la transparence financière à l'échelle mondiale. C'est une vision globale de l'activité des entreprises multinationales pour garantir le moyen de sécurité juridique suffisant dans la gestion de leurs obligations fiscales afin qu'avoir une justice fiscale sur le plan international. De notre jour, dans une économie moderne et mondialisée, il faut avoir le moins un fonctionnement et réglementation pratique dans le cadre national et international, garantir l'efficacité de cette application pour mettre fin à la concurrence fiscale entre les pays.
Alors, Lara Taleb, peut-on dire que les paradis fiscaux sont morts et enterrés ?
On peut dire que c'est un tournant majeur dans le domaine des fiscalités. Des entreprises par l'harmonisation de leur taxation à l'échelle mondiale pourraient bien changer les politiques des entreprises de dissimuler leurs revenus et leurs actifs dans des pays à fiscalité privilégiée ou le paradis fiscaux actif qui permet à une société de ne pas payer d'impôts sur les sociétés ou de moins payer ce que la réglementation en vigueur dans un pays lui impose, c'est entre parenthèses, c'est l'optimisation fiscale. C'est un bon début pour la fin des paradis fiscaux. C'est un moyen de récupérer l'impôt sur des profits qui ont été localisés dans les paradis fiscaux. C'est un sortir de tunnel sombre des paradis fiscaux et ouvrir le volet devant une justice fiscale mondialisée. C'est un grand pas.
La fiscalité reste-t-elle un instrument géopolitique à géométrie variable ?
Alors, par rapport à votre question de ce contexte-là, on peut dire là, toujours la fiscalité des États, c'est une miroir de l'État moderne qui cherche pour la stabilité sociale et le progrès démocratique, également l'efficacité de la croissance économique. Donc la fiscalité doit être mise au service d'une politique de puissance et devenir un autre géopolitique pour les pays en utilisant une fiscalité intelligente et incitative.
En matière de lutte contre le réchauffement climatique, la Commission européenne a dévoilé son programme fort de 12 directives et règlements. Il vise à réduire les émissions de carbone du continent d'au moins 55% d'ici 2030. La taxe carbone représente-t-elle une arme de destruction ou de construction massive ?
Alors, par rapport à la réchauffement climatique, on a déjà vu que tous les pays sont essayés de lutter contre le réchauffement climatique et le taxe carbone est considéré comme un fruit depuis des dizaines de produits de lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle mondiale qui a vraiment changé le comportement polluant et pénalisé la consommation de produits ou d'activités polluantes avec réduit l'émission de cette activité selon les règles pollueur-payeur. Dans ce sens-là, la limitation de certaines activités au nom des questions écologiques est demandée de manière excessive.
Le mois dernier, Women in Life participait à un débat avec des Libanaises sur le thème « Les femmes libanaises entre tension et violence ». Compte tenu de votre âge et du métier que vous exercez dans un univers dominé par le patriarcat, incarnez-vous le changement de paradigme.
On a bien réussi, mais il faut aller un peu encore plus loin. Les femmes libanaises jouent un grand rôle dans la société. Précisément, la dernière révolution libanaise en octobre 2019, on trouvait les femmes libanaises jouent un grand rôle de pacification cruciale dans les manifestations. Elles sont toujours en première ligne dans tous les événements. Même elles ne sont pas encore atteintes le plein pouvoir sur ces droits humains et naturels. Même elles sont bien protégées par l'État grâce aux nouvelles lois et leurs amendements, par exemple l'élimination de crimes d'honneur, les lois contre la violence domestique et deux autres lois. Et on ne sent pas encore donné, par exemple, la femme libanaise de transmettre sa nationalité à ses enfants et à son mari étranger à la nationalité. On peut dire que ça atteint notre avancement sur ce plan-là. Il nous reste encore beaucoup à faire. C'est un long combat. Et tant que je suis avocate et doctorant en droit, nous, les avocats, les dernières garanties de notre droit des États, de notre droit de confondre, de notre droit exactement pour les femmes.
Lara Taleb, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Beyrouth, au Liban. À très vite, en France.
Je vous remercie beaucoup.